spirituel aujourd'hui. Nous allons célébrer ensemble, si vous le voulez bien, quelqu'un de bien important pour le Québec. C'est le père Basile Moreau, qui a vécu en France, mais qui est déjà venu ici à Saint-Laurent visiter les pères de Sainte-Croix qu'il a fondés, les religieuses de Sainte-Croix, les frères de Sainte-Croix. Et c'est demain le 125e anniversaire de son décès. Il est mort comme un saint, c'est une vie de saint, c'est une vie extraordinaire. Un homme d'une profondeur spirituelle remarquable et d'un esprit vaste qui a fondé un ensemble de congrégations dans le but d'accomplir une œuvre d'Église complète. L'enseignement, les missions, la prédication, tout, rien ne lui était étranger. Il aimait tout. Il aimait l'Église. Il aimait le Christ. Et on peut dire que certains de ses textes sont de grande beauté. Dans un ouvrage paru il y a quelques années, Spiritualité Moreau, paru il y a une dizaine d'années, publié par la congrégation de Sainte-Croix, à Rome, à la maison généraliste, là. Ouvrage intitulé Spiritualité Moreau, et écrit et compilé par un Américain, un bénédictin américain, dont Wollstone Mork. Ce bénédictin a été fasciné par la spiritualité de cet homme. Il écrit que dans la pratique, chaque religieux de Sainte-Croix doit avoir l'intérieur du Christ. Ses intentions, ses pensées, ses vertus. Mais cet effort n'est pas tant une ascèse qu'un don. Le don avec un D majuscule. Alors, ce bénédictin cite le père Moreau, Basile Moreau, sur ce point important. Et voici la citation, c'est très beau. Seul le Saint-Esprit devrait être comme il était en Jésus-Christ, le principe, l'âme, le moteur de toutes vos actions. Il s'adresse évidemment aux pères de Sainte-Croix, aux sœurs de Sainte-Croix, les frères de Sainte-Croix, tous ces gens qui forment une communauté. Ainsi, quand le Sauveur parlait, dit le père Basile Moreau, quand il priait ou agissait, c'était plus par l'esprit de son Père que par le sien propre. Il disait qu'il ne faisait rien par lui-même. C'est à lui plus qu'à tout autre que s'applique ce que saint Paul disait du juste dans l'Épître aux Romains. En effet, tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres mots, ajoute Père Moreau, en d'autres mots, le pur amour de Dieu et le seul désir de lui plaire était la force qui le mettait en action. Je répète, parce que souvent on s'imagine que ces gens-là n'agissaient que par crainte de Dieu, d'un Dieu vengeur, et que la connaissance de l'amour de Dieu, c'est tout récent. Mais non! Écoutez bien ce qu'il disait il y a plus de 125 ans, puisque c'est l'anniversaire demain de sa mort, 125e anniversaire. Je répète donc cette phrase. En d'autres mots, le pur amour de Dieu et le seul désir de lui plaire était la force qui le mettait en action. Jésus, il parle de Jésus. Ainsi, il aimait le Seigneur de toutes ses forces. Et ce bénédictin ajoute donc le religieux de Sainte-Croix n'est pas semblable au Christ, il est le Christ. Parce que les deux partagent la même vie qui est la source de leur action. Il n'est pas exempté de faire effort. Conduit par l'Esprit, il adhère au Christ dans la parole révélée dans l'Eucharistie. Et en lui et avec lui, il unit sa volonté à celle de Dieu le Père. Quand je lis ces paroles, je pense... Oh, je le dis, à ce père André Legault, de la congrégation de Sainte-Croix, qui est toujours curé à Saint-Germain-d'Outremont. Allez à la messe, là, 4h30 sur semaine. Vous verrez un homme de Dieu qui célèbre et qui prêche de façon absolument admirable. Admirable. Mais qui est ce père Basile Moreau? Dans un petit ouvrage... genre livre de poche qu'a publié le père Henri-Paul Bergeron, on trouve des choses absolument admirables. Très belles, très belles. Il écrit qu'il avait trouvé Un mince feuillet jauni, noirci d'une écriture irrégulière et serrée. Et c'est un texte écrit quelques 3 ans avant la mort du père Moreau. Votre souvenir religieux, mon cher père et ami, il écrit à un père, ne me trouve jamais indifférent, mais très sensible et reconnaissant, surtout au milieu des délaissements occasionnés par tant de calomnies, dont je dois cependant bénir la Providence. Je suis prêt à rendre le bien pour le mal, car il a eu beaucoup à souffrir de calomnies, de difficultés. Il dit, mettez-moi que je serai heureux de souffrir encore bien davantage et jusqu'à ma mort, pour ressusciter l'œuvre primitive de Sainte-Croix qui était en grave danger à ce moment-là. Et cette année où le père Basile Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, délaissé de ses religieux, s'offre ainsi pour eux, sa communauté établie à Montréal, à la demande de Monseigneur Bourget, accueille quelqu'un que l'on connaît bien, Alfred Bessette, qui prendra le nom de frère André, le bienheureux frère André. Le prêtre auquel s'adresse cette petite missive, qui est le père Huppier, deviendra le directeur spirituel qui va marquer profondément l'âme du frère André. Et c'est une double coïncidence qui éclaire cette vérité. Les saints naissent des saints selon une génération mystérieuse voulue de Dieu. Écrit le père Henri-Paul Bergeron, je répète cette phrase, les saints naissent des saints selon une génération mystérieuse voulue de Dieu. Oui, parce que la terre, c'est une fabrique de saints. C'est une immense manufacture de saints. Et c'est à nous de les fabriquer, les saints. Basile Moreau est né 8e enfant de Louis et de Louise, qui est née, elle, Piaget. Je donne le nom au cas où ça voudrait dire quelque chose à quelqu'un. Il est né le 11 février 1799. Au moment des troubles, des événements en France qui étaient terribles, à la suite de la Révolution française, 9 jours plus tard, son père, très pieux, amène clandestinement un prêtre pour baptiser son nouveau-né, le 8e enfant. C'est un enfant impulsif, turbulent, espiègle. Il rêve de choses religieuses et puis il rêve d'embrasser toutes sortes d'apostolats. Et sa vie durant, ce désir va le harceler, de remplir toutes les tâches, comme je vous ai insinué au début, il a fondé une congrégation qui accomplit toutes les tâches. Rien ne leur est étranger. L'enseignement, la prédication, les missions lointaines, vous savez que beaucoup de pères de Sainte-Croix d'ici, et de frères, et de sœurs aussi, sont allés au Bangladesh, où ils ont toujours une mission, et c'est depuis longtemps, ils sont là depuis 150 ans. Absolument phénoménal. La vie monastique aussi les intéresse. La prière. Élever une famille de 14 enfants dans ce village de Laigné, qui est situé non loin de la ville du Mans. Le Mans, quoi, s'en essaie un peu à cause des courses du Mans, des courses automobiles. Mais on connaît peut-être mieux ça ici à Radio-Ville-Marie. Parce qu'on entend souvent les moines de Solesmes, mais l'abbaye de Solesmes est tout près du Mans. Le Mans, c'est M-A-N-S, comme vous savez, hein? Alors c'est là qu'il a grandi, et il a grandi, son père l'élevait avec les seules recettes d'un petit commerce de vin puis l'exploitation d'un lopin de terre. Pas de moyen pour faire fortune, et le père a beau parcourir les environs à la recherche de la clientèle, puis le fils aîné lui s'occupe des travaux de la ferme, c'est à peine s'il réunit à nourrir la maisonnée, donc il a connu la pauvreté. Et depuis l'époque de la Révolution, le village de Laigné est privé de prêtres. La prière en commun est devenue une liturgie dans la famille Moreau. Et c'est très important parce que cet enfant, s'il commet quelques fredaines, il a peur d'entendre dire à l'heure de où l'on s'agenouille pour la prière du soir, « Eh bien, mon petit Basile, retire-toi. Tu feras ta prière tout seul. Car tu t'es montré indigne de joindre ta voix à la nôtre en prière en famille. » Alors, il n'y a pas de châtiment corporel dans cette famille. On privait de prière en commun. C'est assez surprenant. Hein? Et sa mère, Madame Moreau, quoi, Elle-ci inspirait ses enfants par ses exemples, plus qu'encore que par ses conseils. L'amour de Dieu, oui. Puis l'habitude de la prière, puis le respect, puis la charité envers tous. Et la compassion envers les malheureux, qui va marquer si profondément la vie de Basile Moreau, c'est sur les genoux de sa mère qu'il l'a apprise. Et son père lui donne surtout l'exemple d'une droiture parfaite. Un homme vrai, quoi. L'exemple de la conscience professionnelle. Et ça, ça lui inspire la passion la plus scrupuleuse, de la plus scrupuleuse justice. Donc, Basile Moreau, qui s'est vu confier le soin d'enseigner à quelques camarades à servir la messe, éprouve le désir de devenir prêtre, à l'exemple de son curé. Ce curé, après avoir exercé son ministère dans la crainte, là, au péril de sa vie pendant la Révolution, a transformé sa paroisse de Laigné, où le petit Basile Moreau, je vous le rappelle, est né, où les jeunes sont demeurés sans aucune instruction pendant un bon bout de temps. Et il a fait appel au dévouement d'une jeune fille, Mademoiselle Dufay de Boismont, pour s'occuper des fillettes et s'est chargé lui-même d'instruire les garçons. Et on voit apparaître dans son cœur les futures congrégations. Et ces deux âmes d'élite suscitent une telle admiration chez Basile, petit Basile, qu'il va écrire à leur sujet. Et c'est très beau comme quoi un enfant peut être marqué par des gens qui sont donnés et qui sont de vrais prêtres et de vraies religieuses et de vrais parents chrétiens. Il dit, c'est mon père, c'est ma mère, je suis leur fils en Jésus-Christ, en parlant de ce prêtre et de cette femme. Comme ils ont élevé notre enfance, instruit notre jeunesse. Que de leçons, que de conseils salutaires, que de consolations n'avons-nous pas reçu de leur charité. Alors le père de Basile, Louis Moreau, consent à ce que son fils suive des cours de latin au presbytère. Et puis, d'octobre de l'année 1814, là, en octobre, Basile dit adieu à sa famille, à son village finalement, puis en compagnie de son père, il s'achemine à pied vers le collège de Château-Gontier, qui est situé à quelques 80 kilomètres de Laigné. Et là, il a le cœur gros, hein, il est jeune encore, il a 15 ans. Avec la souplesse de son âge, bien, Basile s'adapte à cette nouvelle vie, puis se classe dès le début parmi les meilleurs élèves, et il est d'un tempérament de feu. Il se met entier en tout ce qu'il accomplit. À l'automne de 1817, Basile Moreau entre au grand séminaire du Mans, installé dans l'ancienne abbaye Saint-Vincent. À 21 ans, avec l'assentiment de son directeur spirituel, il résume les obligations auxquelles il s'engage. Il fait des vœux qu'il fait tout de suite avant le sous-diaconat. Dans ce temps-là, il existait le sous-diaconat. Il y avait quelque chose avant le diaconat. Alors le vœu de chasteté perpétuelle, il le fait tout de suite, d'obéissance. C'est-à-dire, dit-il, de ne solliciter aucune place, puis de tout accepter. Il fait un vœu de pauvreté tout de suite, c'est-à-dire de ne point amasser de richesse, de ne porter que de l'étoffe commune et ordinaire, jamais de soi, pas de soi. Quatrièmement, il fait le vœu de jeûner le vendredi et de ne boire que de l'eau à la collation. Tant que je vivrai, dit-il, dans un séminaire, pour ne point me mettre dans l'embarras pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, bon, il veut faire comme tout le monde, il veut pas se singulariser. Il dit, le premier motif de cette mortification est de faire pénitence de mes péchés, puis le deuxième, d'obtenir de plus en plus d'amour de Jésus-Christ. Faire pénitence pour obtenir de plus en plus d'amour de Jésus-Christ. Et si grande est son ardeur à l'étude et à sa piété tellement phénoménale, qu'il brûle les étapes qui le mènent à l'autel. Passez vite encore au gré de son impatience, il est jeune puis il est impatient, mais quand même, il devient sous-diacre à 21 ans, et puis diacre l'année suivante, et puis il est ordonné prêtre finalement. Le 12 août 1821, à l'âge de 22 ans, c'est jeune. Hein? C'est en vain, donc, que le jeune prêtre Basile Moreau, 22 ans, a demandé à son évêque, Monseigneur de la Mire, la permission d'entrer au séminaire des missions étrangères de Paris, qui est très réputé, c'est tout près de la chapelle de la médaille miraculeuse, la rue du Bac, juste à droite, là, vous pouvez aller visiter ça, ça vaut la peine si vous allez à Paris un jour, ou si vous y êtes allé, ne ratez pas ça, car le père Basile Moreau veut se préparer à l'apostolat lointain, qui serait plus en harmonie avec son tempérament fougueux. Mais le prêtre lui dit, vous serez bien plus utile dans mon grand séminaire pour former les prêtres, et j'ai songé à vous envoyer parfaire vos études et votre formation chez les Sulpiciens, à Paris et à Issy-les-Moulineaux. Alors, le 12 octobre 1821, Basile assiste à l'ouverture de la retraite qui inaugure l'année scolaire au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Les exercices spirituels sont donnés par le supérieur, M. Duclos, et c'est un genre de Sulpicien qui apparaît à Basile Moreau comme un homme d'une vie intérieure intense. Ça le saisit. Un directeur éclairé, un saint bon à canoniser, doux, doux, doux comme Saint-François de Sales. Il est entre bonnes mains. Basile Moreau s'adonne avec ardeur à l'étude, mais parfois il trépigne d'impatience. Parce qu'il se voit astreint à toutes sortes d'argumentations scolastiques dans le temps, la théologie. Bon, de toute façon, c'est peut-être pas mieux enseigné aujourd'hui sous certains aspects. Hein. C'est pas facile d'enseigner le contenu de notre foi chrétienne. Et on l'oblige à la traduction de textes hébreux. Je me souviens, on apprenait ça, l'alphabet hébreu et tout ça. Alors pour lui, il pense aux âmes qui périssent faute de prédicateurs, et ça le tourmente. Mon Dieu, quel compte j'aurais déjà à rendre si j'avais exercé le ministère, dit-il. Si je ne deviens pas un saint, quel fameux damné je ferai. Franchement, je frémis. Les cheveux me dressent quand je pense que je tiens ici la place d'un séminariste qui serait devenu un grand saint, car si on ne l'est pas ici, jamais on ne le sera. C'était pas très grand, le séminaire. Ils étaient 14 ou 15 seulement. Alors, cette teinte un peu sombre de la spiritualité de M. Ollier qui touche Basile Moreau. Mais Basile Moreau, avec son caractère enthousiaste et allègre, va atténuer cette spiritualité, qui est quand même très belle. Je vous ai fait une émission sur Jean-Jacques Ollier, qui était un grand homme. Alors, la fièvre d'apostolat qui dévore Basile Moreau à son arrivée au séminaire de Saint-Sulpice s'exprime de façon moins fougueuse, mais plus surnaturelle. Il mûrit, hein, son ardeur pour la conversion des âmes, c'est pur, et l'humilité, le renoncement et l'obéissance vont finalement triompher de ses goûts personnels. Et l'été de 1823, il a 24 ans, se passe pour Basile dans l'attente d'une obédience. Alors, il va enseigner non pas au grand séminaire, mais bien au séminaire de philosophie du Mans. Et Basile, qu'absorbe la tâche de professeur de philosophie, doit parfois se multiplier. Oui, se multiplier pour remplir celle de prédicateur qui lui tient tant à cœur. Il est aimé comme prédicateur. Et à mesure que se manifestent au public ses qualités là, de prédicateur extraordinaire, il se voit de plus en plus prié de sortir de son séminaire. Au mois de mai 1825, donc, Monseigneur de Lamire, évêque du Mans, qui apprécie de plus en plus Basile Moreau, il propose d'enseigner la théologie dogmatique au grand séminaire. Alors toujours renaît chez Basile, au long de sa carrière de professeur, le désir d'embrasser un état de vie plus parfait. Son directeur l'en dissuade, même lorsqu'il s'agit de l'intention d'entrer dans la compagnie de Saint-Sulpice. Et Basile profite des vacances pour satisfaire un peu sa soif de vie contemplative. Il est hanté par la vie contemplative, surtout des trappistes. Il a fait aussi une retraite à la Grande Chartreuse avant d'être ordonné. Alors, ses vacances de 1829, donc il a 30 ans, sont marquées par une longue retraite à la Grande Trappe, qui est située près de Mortagne, en France. La Grande Trappe qu'a transformée l'abbé de Rancé. Elle est à Soligny, la Grande Trappe. Cette abbaye sera pour lui le lieu de prédilection, où il va venir méditer longuement aux heures décisives de sa vie. Après 5 années comme titulaire de la chaire de théologie dogmatique, Basile se voit soudain transféré à celle d'Écriture sainte. Et dans cet enseignement, il connaît dès le début le plus vif succès. Toutes ses tâches de directeur, de professeur, de prédicateur conjugué ne laissent aucun répit à Basile. Et puis dans cette activité débordante, Basile ne perd jamais de vue sa sanctification personnelle. Il veut devenir un saint. Il y tient. L'heure sonnera bientôt où cet homme qui est un apôtre va vouloir grouper autour de lui de jeunes prêtres d'élite, les former à la vie religieuse pour les lancer sous sa direction, on pourrait dire à la conquête des âmes. Brillant professeur et prédicateur éloquent, Basile devient aussi le collaborateur de son évêque. Un fondateur, C'est pas un ingénieur qui bâtit de toutes pièces là une espèce de machine dont tous les rouages sont prévus d'avance. Puis les possibilités complètement déterminées d'avance. Non, un fondateur de congrégation ou d'ordre, c'est un artiste. Oui, c'est un artiste qui, sous l'inspiration de Dieu, façonne petit à petit son œuvre, puis il en découvre peu à peu toute la beauté puis la richesse. Il tire parti le mieux possible des matériaux disponibles, puis il les adapte, il transforme. Telle est l'œuvre de Basile. Il travaille avec des hommes qui se présentent, des femmes qui se présentent et qui veulent être des saints. Basile renonce pour le moment à fonder son association. Il se contente d'envoyer 3 jeunes ecclésiastiques suivre les cours publics à la Sorbonne et prendre les grades universitaires. Il pourvoit lui-même aux frais de leur pension au moyen de ses honoraires de professeurs et de prédicateurs. Car la congrégation de Sainte-Croix est remplie de grands spécialistes, de savants. On en a plusieurs ici à l'Université de Montréal. Il y en a dans le monde partout. Au mois d'août 1835, Basile réunit à la trappe de Port-Salut, une autre trappe, ils font du bon fromage, Port-Salut. Mais il réunit ses premiers associés, 2 prêtres et 2 séminaristes. De concert avec le père abbé du monastère de Port-Salut, ces retraitants-là étudient l'établissement de la nouvelle société puis décident de demeurer au grand séminaire jusqu'à ce qu'une maison soit prête pour les recevoir. Ça se fonde très pauvrement, comme vous voyez. Ils choisissent le nom de prêtres auxiliaires. Puis s'engagent à faire chaque jour 1 heure de méditation, puis s'entretiennent du ministère des retraites et des missions. Chacun décide de se préparer par l'étude. L'étude est une sainte vie à l'apostolat. La culture et la passion spirituelle. La culture, n'oublions pas ça. C'est très important. On ne peut pas construire une église sans culture, nous allons devenir une secte. Basile décide donc de construire au printemps de 1837 une vaste demeure sur une propriété qui lui a été donnée et dans la commune de Sainte-Croix. C'est de là que vient, par le nom de la commune, le nom de Sainte-Croix. Dès cette première année, commence l'activité missionnaire des prêtres auxiliaires. Ils prêchent plusieurs retraites dans les paroisses, puis les collèges, dans les collèges des environs. Oh, si on prêchait des retraites dans les collèges, dans nos écoles, grand Dieu. Au mois de juin 1836, Basile Moreau a la douleur de voir mourir. Le sujet sur lequel il fondait les plus belles espérances était un jeune abbé nourri de son nom, nourri. Cette perte ne fait qu'inaugurer les épreuves. Il aura tellement d'épreuves, je ne veux pas tout vous raconter. Ça pourrait presque devenir fastidieux. L'année même où Basile éprouve le désir de fonder le Bon Pasteur du Mans et d'organiser un institut de prêtres destiné à l'enseignement dans les collèges, il est disposé dans son zèle inlassable à se charger d'une société de frères qui menacent ruine, qui ont été fondés par un prêtre. Et alors, il va s'en charger. Il écrit en 1840, le 1er janvier, « J'ai définitivement arrêté les bases de la Société des prêtres auxiliaires. » En liant cette œuvre à la vôtre, celle des frères, la Société des frères de Saint-Joseph, j'ai fait vœu de vivre et de mourir dans l'œuvre de Sainte-Croix, à moins que l'obéissance ne m'appelle ailleurs, en attendant que je puisse enfin compléter mon sacrifice. Ce sacrifice, il veut dire mon cri d'amour. Hein? Le sacrifice d'un saint comme ça, c'est un grand cri d'amour qui, toute sa vie, il dit par l'émission solennelle des vœux de religion. C'est comme ça qu'il veut compléter son sacrifice et qu'il écrit le 1er janvier 1840. Il y a une grande célébration au Mans, avec consécration de la chapelle-église, de la maison-mère, chapelle de Sainte-Croix, hein? Église de Sainte-Croix. Et c'est alors le sommet de la carrière du fondateur. Imaginez, ces congrégations comptent 400 pères et frères et 265 sœurs. Où sont-ils? C'est inouï, ça vient d'être fondé, pour ainsi dire. Mais on les retrouve en France, en Algérie, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Pologne. Ils sont dans 4 continents et 6 pays, quoi. Or, le père Moreau décide de venir ici pour visiter sa congrégation, puisqu'ils sont au Québec. Le père Moreau ne fait qu'un séjour de quelques semaines en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis. Arrivé à New York le 11 août 1857, il va en repartir le 19 septembre. C'est pas bien long, un peu plus d'un mois. 5 semaines, si on peut dire. Après avoir rendu visite à ses religieux et religieuses, donc du Canada et des États-Unis. Bah, c'est un court voyage. Il débarque à New York le 11 août, se rend par train le lendemain à Montréal, où il arrive durant la nuit, puis est accueilli au séminaire Saint-Sulpice, chez les Sulpiciens. Il se rend à Saint-Laurent, finalement, où il arrive inopinément. Et puis, il décrit l'accueil chaleureux de la communauté québécoise. On s'embrassait, on se félicitait réciproquement sur son bonheur. Enfin, on se rendit à l'église pour y chanter le cantique de la reconnaissance. Comme tous les cœurs étaient doucement émus. Pendant que les voix faisaient monter vers Dieu l'encens de leurs hommages. Comme on sentait délicieusement le bonheur de se retrouver en famille après une si longue séparation dans des pays si lointains et après une si pénible épreuve. Alors le samedi soir 22 août, une cérémonie des adieux aux deux communautés. Le dimanche est consacré à la visite des Sulpiciens et de plusieurs communautés religieuses ainsi qu'à un long entretien avec Mgr Bourget qui a tant insisté pour faire établir la congrégation de Sainte-Croix en son diocèse. Et le lundi, c'était le départ pour les États-Unis, la visite de Notre-Dame-du-Lac, Notre-Dame, comme on dit, cette grande université qui est des pères de Sainte-Croix, ce club de football réputé. C'est eux. Mais oui, c'est eux. Ils ont été appelés, les Sainte-Croix, pour prendre en charge l'éducation des jeunes d'une paroisse à Saint-Laurent. Et le curé de la population, et la population plutôt, s'attendent à ce que l'enseignement commence dès la rentrée. Et ça s'est fait au jour fixé. C'était ça en 1847, avant la venue, évidemment, du père Basile Moreau. C'est une histoire extraordinaire quand on y pense. Il y a le collège de Saint-Laurent, séminaire Sainte-Croix, pensionnat Notre-Dame-des-Anges, le collège Basile Moreau, l'école Baudet, l'académie Saint-Alfred et d'autres encore, ça n'en finit plus. Ils ont eu une audace fantastique. Et la moyenne d'âge du groupe qui est arrivé n'excédait pas 20 ans. Oui, pas 20 ans. Et leur courage des premiers qui sont arrivés en 1847... pour entreprendre avec les pauvres moyens du milieu une œuvre dont un seul va voir l'épanouissement. Tout cela fait partie d'un héritage de famille. Car Sainte-Croix, d'aujourd'hui, tente encore de le faire. Sainte-Croix demeure aimantée, comme son fondateur et ses devanciers, par l'en avant de l'histoire, pourrait-on dire, et par l'appel des défis nouveaux de l'Évangile, comme l'écrit si bien Sœur Graziella Lalande, de la Congrégation Sainte-Croix. C'est pas possible de voir et de constater dans des albums qui m'ont été remis par le Père Gagnon tout ce qu'ils ont fait. Sœur Guylaine Roquet écrit qu'à la diminution des effectifs, au vieillissement subséquent qui petit à petit se sont fait sentir partout en Amérique du Nord, s'est ajoutée au Québec une décision politique qui allait complètement modifier le paysage éducatif. Alors, conformément aux recommandations de la commission parents, dont elle a fait partie, sœur Guylaine Roquet, des sœurs de Sainte-Croix, et le gouvernement du Québec a pris à sa charge, à partir de 1966-67, il y a donc plus de 30 ans, la quasi-totalité du système d'éducation, de la maternelle à l'université. En même temps, la configuration du système se transforme afin de faciliter l'accès au plus grand nombre. Alors, tous les membres de Sainte-Croix ont décidé de collaborer pleinement cette révolution éducative avec ses avantages certains puis des grands risques. Des grands risques. Et la conséquence, dit-elle, bien presque toutes les grandes institutions de Sainte-Croix, les grandes institutions privées se sont intégrées aux nouvelles institutions publiques. Le collège de Saint-Laurent, le personnel de Basile Moreau ont formé le cégep de Saint-Laurent. L'édifice de Basile Moreau et de la maison mère des sœurs va abriter le cégep Vanier, un collège anglophone. L'école normale Ignace Bourget se fond dans le cégep Bois de Boulogne. L'école normale et le collège classique de Haute-Rive vont devenir le cégep de Haute-Rive. L'externat classique Sainte-Croix devient le cégep Maisonneuve. Le collège de musique de Saint-Laurent s'associe par contrat au cégep de Saint-Laurent. Les petits pensionnats de campagne deviennent soit des CLSC, soit des centres communautaires, tandis que le pensionnat Notre-Dame de Sainte-Croix, à Côte-des-Neiges, celui de Sainte-Rose et l'Institut familial de Nomininque sont aménagés pour recevoir des religieuses âgées. Quand je lis ça, j'ai le cœur gros. Et je me demande où ils puisent encore leurs espérances. Mais ils les ont conservées. Mais revenons à leurs fondateurs. Car parmi les saints, les fondateurs d'ordres d'instituts religieux apparaissent toujours profondément marqués. Comme le Christ, ils souffrent des passions énormes. Ils ont une passion, un désir. Ils souffrent des passions parce qu'ils sont blessés, souvent par les leurs. Leur existence au fondateur semble la réédition de celle du fondateur de notre Église catholique, Jésus-Christ lui-même. Après la vie cachée, toute de prière et d'humilité, mais il y a la vie publique, qui est semée chez les fondateurs, les fondatrices, elle est semée de contradictions, puis suivie d'un petit triomphe, qui prélude à leur mort, à la montée au calvaire. Le père Moreau n'a pas dérogé à cette loi. Il écrit à 67 ans, le 21 juin 1866, « Je suis heureux de vous apprendre qu'après avoir refusé ma démission à mon arrivée à Rome et lors de mon départ, Sa Sainteté, le pape, a daigné depuis l'agréer, ma démission. Il a nommé vicaire général, jusqu'au prochain chapitre, le père Chappé, à qui vous devez désormais obéir comme à moi-même et vous adresser pour toutes les affaires. Vous voyez qu'il est obligé même de démissionner. Je vous fais grâce de tous les détails, c'est très long, mieux vaut lire un ouvrage. » Vers la fin de l'année 1872, l'année qui précède sa mort, il voit ses forces diminuer, mais il n'en continue pas moins ses courses apostoliques. Il persévère dans son habitude d'observer 3 jours de jeûne, j'ai bien dit 3 jours de jeûne et d'abstinence, chaque semaine. On lit ça, puis on dit, mais on relit 3 fois, hein, pour être sûr si c'est vrai. Il se contente d'eau pour toute boisson et d'une petite collation comme repas du soir. Depuis 25 ans, un simple fauteuil lui sert de lit de repos. 25 ans. Comme l'écrit si bien le père Henri-Paul Bergeron de la Congrégation de Sainte-Croix, évidemment, le comportement des passionnés d'imitation du Sauveur nous paraît déroutant. Notre simple bon sens s'oppose à leur attitude et nous nous expliquons mal leur austérité. Ce qu'ils ont en commun est leur application à se conformer à la croix. L'ascèse chrétienne a mauvaise presse de nos jours. Et le père Bergeron ajoute, nous oublions qu'elle est nécessaire à la sanctification. Nécessaire. Au début de la vie de Basile Moreau, la mortification est une prudence pour, disons, exténuer le corps, au profit de l'âme. Elle est devenue, par la suite, une prédication vivante de la croix. La croix qui scandalise, comme le ferait sans doute la potence du Sauveur si nous avions été là. Mais nous la voyons beaucoup plus idéalisée, la croix du Sauveur, on la met sur nos murs, elle ne nous scandalise plus. On la regarde, et souvent, on n'en éprouve rien. Mais elle est toujours sanglante, comme sur la butte du calvaire, sanglante de ce sang qui est son âme, son amour, qui nous bouleverse et nous transperce. Pour nous mener avec lui à la résurrection, nous devrions... comme nous devrions être des chrétiens ressuscités dans notre Église, partout. Des chrétiens debout, prêts à tout faire comme les saints. Et à mesure que le mal augmente chez le père Basile Moreau, il multiplie les invocations, surtout à l'adresse de la Très-Sainte Vierge. Pas une plainte, pas un mot d'impatience. Oui, pas une plainte, pas un mot d'impatience. Il ne demande rien. Mais il se confond à remerciement au moindre service qu'on lui rend. C'est typique des saints, ça. Ça m'est même un peu fatigant, des fois. Hein? Il ne demande rien, on ne sait pas quoi leur donner. Et si on leur offre quelque chose, ils se confondent en remerciement comme si c'était extraordinaire. Et moi, ça me fatigue, des fois, je me dis, ils font tant pour nous, les saints. Nous faisons si peu pour eux. En dépit de sa faiblesse, le père Basile Moreau parvient parfois à se tenir debout pour témoigner sa foi et sa dévotion envers la très sainte Eucharistie. Incapable de s'agenouiller, il dit un matin avant la communion, « Vous m'en êtes témoin, ô mon Dieu. Mon âme obéit à mon corps en ce moment solennel. Et si je n'étais retenu par la souffrance, je ne serais pas assis dans ce fauteuil que je voudrais vous recevoir, mais bien les deux genoux en terre et le front profondément humilié. Comme j'aimerais qu'on puisse recommunier à genoux. Il faut communier debout. Moi, j'aimerais mieux à genoux. Mais peut-être que je suis vieux jeu. Communier debout, c'est communier comme un ressuscité. Mais il me semble que communier à genoux, c'est communier comme un adorant. Adorer celui qu'on reçoit. Enfin, je me soumets aux règles. Alors les forces de Père Moreau déclinent de plus en plus. Le 17 au matin, il reçoit l'Eucharistie, le Saint Viatique. Le Christ qui va l'accompagner dans l'au-delà. Le Viatique, voyageur. Dans la soirée, il fait ses adieux aux religieuses, réunit à son chevet. Le lendemain, il reçoit le sacrement des malades et la bénédiction apostolique. Le dimanche 19 janvier, l'anniversaire aujourd'hui, la fin s'annonce prochaine. Le père Charles Moreau, Mère Marie des Sept Douleurs, ce sont les dirigeants, quoi. Et trois autres religieuses passent la nuit à son chevet. Vers le matin, la respiration devient plus embarrassée. Il est bien malade. Mais il semble conserver sa connaissance et il semble entendre la voix qui prie pour lui, Jésus, Marie, Joseph, les anges et tous les saints, et particulièrement, écoutez bien ceux qu'il a si souvent invoqués au long de son pèlerinage terrestre, son patron Basile, je vous en ai parlé au début du mois, Saint Basile, grand Saint Basile, Antoine, oui, et Vincent de Paul. Et vers midi et demi, la respiration du mourant devient perceptible et son âme semble illuminer son visage d'une beauté calme et sereine. Et l'aumônier, après une dernière bénédiction, s'incline pour donner le baiser de paix à celui qui s'en va vers quoi, hein? Vers l'éternel bonheur. Et il y a 125 ans, demain, la mort de celui dont la vie entière s'est déroulée en union avec Dieu, ce n'est que l'accomplissement finalement d'un état de fait. Une extase devenue permanente dans le Seigneur. Depuis longtemps déjà, le père Basile Moreau désirait ardemment cette rencontre avec Dieu dans un face-à-face éternel. Plus rien ne comptait à ses yeux que cette paix absolue. Vidé de tout ce qui est terrestre, il a été envahi par Dieu. Et cette mort a fait peu de sensations au moment tant le public oublie vite. Oui, c'est comme ça que les saints meurent souvent. Hein? J'aurais le goût de saluer tellement de pères de Sainte-Croix que j'ai beaucoup aimé. Je n'oserais pas parce que j'en oublierais. Mais je veux saluer quand même la mémoire du père Claude Simard qui a été assassiné en 1994 au Rwanda pour avoir été un missionnaire intègre et honnête et vrai. J'ai fait deux émissions sur lui déjà. Deux, pour rendre hommage à cet homme extraordinaire, l'une qui n'est qu'une partie d'émission et l'autre une émission complète d'une heure. Revenons à leur fondateur. La gravité d'un testament spirituel qu'a rédigé le père Moreau le 3 août 1871 est très belle. Il dit « Je pardonne de bon cœur » parce qu'il a été bien malmené à certains moments. Et il ajoute « Je supplie très respectueusement la miséricorde de Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge et de Saint Joseph, de pardonner à tous ceux qui m'ont fait quelque tort dans ma réputation ou dans les biens dont j'étais dépositaire, bénissant Dieu de m'avoir trouvé digne de souffrir quelque chose à l'occasion des entreprises faites pour sa gloire. Son désir d'ascèse était comblé par un supplice qu'il n'a pas choisi, sa volonté de se conformer au Christ Sauveur s'est réalisée dans l'échec apparent de l'œuvre de sa vie. Si la dévotion à la mémoire du Père Moreau a été mise en veilleuse pendant quelque temps, son œuvre continue cependant de se développer malgré tout, surtout au Canada et aux États-Unis et en pays de mission. Et les écrits du Père Moreau demeurent des sources d'une richesse immense, immense. Je vous rappelle que les disciples du Père Moreau sont très actifs au Bangladesh, où les catholiques ne représentent 100 fois rien, 0,3% de la population de 108 millions. Et pourtant, leur collège obtient des prix. Mentionnons simplement que l'école d'Udayan, dirigée par le doyen des principaux, le frère Albéric Hull, peut-on avoir un nom plus québécois, hein, a reçu le prix du président comme meilleure école de la division en 1992. Je pourrais continuer comme ça et parler du père Benjamin Labbé, missionnaire au Bangladesh, depuis 48 ans. Basile Moreau avait une spiritualité profonde, profonde. Quand il se posait la question « qu'est-ce que la vie chrétienne ?», il disait « c'est la vie de Dieu en nous par Jésus-Christ ». Et plus tard, dans son catéchisme, le père Moreau définit la vie religieuse. Qu'est-ce que la vie religieuse? C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu en nous par Jésus-Christ, mais plus abondante. Comment cette vie peut-elle devenir abondante? Par une union plus étroite avec Jésus-Christ qui nous la donne. Dans une méditation pour le lundi de la Pentecôte, il faisait allusion à l'action du Saint-Esprit. Et il dit, « Le vieil homme meurt et de ses ruines sort brillant et pur. » Comme le papillon de son enveloppe, le nouvel homme vivant de la vie de Jésus-Christ. Oui, ça c'est quand vous dites à l'Esprit-Saint de vous prendre, de vous saisir, de s'emparer de vous et de vous transformer. Nous sommes tous appelés à la sainteté, nous sommes tous appelés à le suivre. On peut pas être ni père de Sainte-Croix, ni sœur de Sainte-Croix, ni frère de Sainte-Croix si on n'aspire pas à la sainteté. Et pour nous les laïcs, c'est la même chose. Le père Moreau définit la vie de Dieu comme la connaissance, l'amour et l'activité des trois personnes divines entre elles. Pour vivre en fils adoptif, ou comme le fils, nous devons avoir la vie du fils, le Saint-Esprit. Et le père Moreau est profondément conscient que l'Esprit Saint, c'est la principale vie du Christ. Il écrit... L'Esprit de Dieu devrait être seul, comme il l'était en Jésus-Christ, le principe, l'âme et le moteur de toutes vos actions. Il s'adresse aux membres de sa congrégation. Ainsi, si le Seigneur parlait, s'il priait ou agissait, c'était plus par l'Esprit de son Père que par le sien propre. Il dit aussi l'Esprit Saint qui, suivant la prophétie d'Isaïe, s'est reposé sur lui, en remplissant son âme de tous ses dons, manifeste celui de la piété en le portant d'une manière admirable vers son Père par la prière et tout ce qui intéresse son culte. Il avait une spiritualité d'une immense beauté. J'ai rarement lu quelqu'un qui pensait de façon aussi belle. Et en exposant sa philosophie de l'éducation dans la préface à une branche de sa pédagogie. Le père Moreau se prononce sur la primauté du cœur dans la personnalité puis la valeur de l'homme. Combien nous avons besoin de ça aujourd'hui, la primauté du cœur. Il dit, puisse ce petit traité sur l'enseignement, la pédagogie, écrit pour les écoles de la congrégation, atteigne le but que j'avais à l'esprit en l'écrivant, à savoir, et c'est très beau ce qu'il dit, la formation du vrai cœur de l'enfant. le plein développement de ses capacités particulières et la compréhension de la vie par rapport à Dieu. Parce que je n'ai jamais compris, ajoute le père Basile Moreau, je n'ai jamais compris l'éducation autrement que cela, convaincu que je suis de ces deux vérités, que le premier devoir d'un professeur est de former des chrétiens, et que la société a certainement besoin d'hommes de vertu plus que d'hommes de savoir. Il faut les deux. La vertu et le savoir chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de catholiques. Beaucoup. Il le faut, c'est très important. Très important. Il dit aussi, commencez par être des personnes de prière pour devenir des personnes apostoliques. Et ainsi vous deviendrez des personnes remplies du zèle qui est l'expression même de l'amour. Comme c'est vrai. Comment avoir le zèle, dit-il, que propose la foi en Dieu et l'amour pour le prochain si vous n'avez pas pour le Sauveur, pour Jésus, un amour sans cesse puisé et renouvelé à la source de l'Eucharistie et de la réconciliation, et n'oublie pas le sacrement de pénitence, comme on disait autrefois, le sacrement de la réconciliation. Je dirais que le silence, je dirais avec lui, le silence semble seul convenir, car après avoir reçu sur ses genoux et entre ses bras la tête du Sauveur, Marie, après avoir assisté et pris part à sa sépulture autant qu'elle le pouvait, oui, Marie se retire. Et quand on aime Jésus, c'est sa tête que l'on reçoit comme ça, précieuse. Sa tête que l'on peut recevoir sur la sainte face du Saint-Suaire de Turin. La contempler. Je vous donnerai un conseil. Essayez d'avoir une petite sainte face, toute petite que vous avez dans votre sac à main ou dans la poche de votre veston, là. Puis après la communion, sortez-la, contemplez-la. Et priez. C'est lui que vous avez en vous. Et vous contemplerez Jésus, et vous lui parlerez peut-être avec plus d'intensité, vous serez moins distrait. Et peut-être que vous suivrez ainsi les traces de Basile Moreau. Basile Moreau, que j'ai appris à aimer en lisant sur lui depuis quelques jours, ça m'a passionné.